Salut et bienvenue dans le podcast CM au sommet sur ma chaîne YouTube Julien Barrière. Aujourd'hui, c'est une interview avec Oriane Coran de Metricool, qui est social media manager chez Metricool, qui a accepté mon invitation. Salut Oriane.
Hello, hello, bonjour à tous, salut Julien, merci de me recevoir aujourd'hui, je suis trop contente. Donc en plus, hâte de poser plein de questions, de répondre un petit peu aux questions que tu m'as préparées, que tu m'as concoctées. Et surtout, peut-être d'éclaircir un petit peu plus sur ce que je fais et surtout peut-être ce que c'est Metricool vis-à-vis de ta communauté.
Ah super, merci Oriane. Bon ouais, vous voyez, on est déjà chaud, on est déjà parti là. Est-ce que tu peux te présenter rapidement, expliquer peut-être aussi que comment tu es arrivé à travailler chez Metricool, etc. C'est intéressant.
Ok. Je m'appelle Oriane, je suis social media manager, j'ai 25 ans, je travaille chez Metricool depuis un peu plus d'un an maintenant. J'ai commencé en octobre 2022. Ça passe vite le temps. Et du coup, je me charge de toute la partie. Je suis social media manager chez Metricool. Ce que je fais, c'est que je m'occupe de toute la gestion, entre guillemets, d'expansion de Metricool en France. Donc, en Metricool, pour expliquer rapidement, c'est un outil de création de contenu dans lequel, en fait, on peut analyser, on peut programmer, on peut faire de l'ads, on peut faire du smart link. Comme je dis, on est le couteau suisse des réseaux sociaux. De toute façon, on en reviendra après dessus pour expliquer en détail ce que c'est que Metricool. Mais donc, je m'occupe de toute la partie social media et un petit peu expansion du produit en France. Parce que voilà, Metricool, pour la petite histoire, c'est un produit espagnol. Et moi, je m'occupe du coup de l'expansion en France depuis que je suis arrivée chez Metricool. Mais ça, c'est un peu, voilà, on en parlera et on en reviendra dessus. Et après, un petit peu pour la petite histoire, moi, je suis du coup franco-argentine, ce qui fait que actuellement, j'habite en Espagne, j'habite à Madrid depuis un peu plus de 3 ans. Et j'ai fait mes études en Espagne aussi. Donc, je suis sortie du baccalauréat en France. Et j'ai directement décidé après de m'en aller. Et je suis partie à l'étranger faire mes études pendant, trois ans et des brouettes. Et la dernière année, je l'ai fait à Paris. Donc, je l'ai fait à l'ESSEC. C'était en période de Covid. Donc, c'était semi-Covid, semi-maison, semi un peu le bourbier pour tout le monde. Et ensuite, après, je suis venue sur Madrid faire un stage dans le marketing. Donc, j'étais tout ce qu'un petit peu gestion digitale et gestion produit. Et après, gentiment, je me suis après un petit peu développée dans la partie commerciale. J'ai fait commercial pendant un peu plus d'un an et demi. Ça m'a brûlée, faut pas dire autrement. Pour être commercial, entre guillemets, le métier de commercial, il faut avoir beaucoup de sang-froid. Il faut être capable de gérer, parce que je veux dire, une chose est de gérer des communautés, de gérer les réseaux sociaux et d'interagir avec des gens. L'autre partie, c'est aussi une des parties du funnel de vente aussi, c'est être commercial. Et il faut avoir vraiment un caractère, il faut être capable de le faire parce que on doit gérer un petit peu sur le moment, on doit gérer par exemple des fois des objections, pas forcément des objections très sympathiques parce que tout le monde n'est pas aimable au téléphone et n'est pas forcément empathique avec tout le monde. Bon, après, comme j'ai dit, c'est une très bonne école parce que pour moi, de mon point de vue, aujourd'hui, les gens qui vont utiliser le produit, certes, il y a le marketing qui est là pour aider et pour faire partager le message, mais après, les gens qui doivent avoir les informations et les ressources pour transmettre ce message, c'est le département de vente. Donc pour moi, en fait, la vente, c'est pas quelque chose que je referais parce que j'aime pas ça, mais ça a été une très bonne école sur comment véhiculer le message et sur comment comprendre les gens qui sont directement sur le terrain et qui plus est consomment ce que tu vas vendre. Donc ça a été une très bonne école pour moi. Et après, comment j'ai trouvé Metricool? Sur LinkedIn. LinkedIn, pour moi, c'est le portail de vente de propositions d'emploi et d'offres d'emploi numéro un. Franchement, quasiment tous mes emplois, je les ai trouvés sur LinkedIn. Ouais. Alors, c'est comme ça que j'ai trouvé l'offre d'emploi.
Ouais, t'as répondu directement dans la rubrique offre d'emploi, hein, c'est ça? T'as pas laissé un commentaire sous une personne?
Carrément. Ouais. J'ai vu là le poste vacant. J'ai postulé comme tous les jeunes, parce qu'il faut dire aussi la vérité sur le jeune, sur le salariat et sur même quand on est jeune employé ou quand on est freelance, peu importe, mais quand on sort des études, il faudrait en fait, je pense aujourd'hui, inventer un cours ou justement juste dire aux jeunes que trouver un emploi aujourd'hui, pour notre génération, c'est pas facile du tout. Et il n'y a pas un manuel d'engagement de « vous allez trouver du travail directement ». Et ça, des fois, je pense que les écoles, les grandes écoles, ou indépendamment, peu importe où est-ce qu'on va aller, elles ne disent pas aux jeunes que c'est compliqué de trouver du travail et qu'aujourd'hui, on peut avoir une offre d'emploi, mais on peut avoir 45 000 personnes pour la même offre d'emploi. Et ça, c'est franchement très frustrant au début. Moi, j'ai comme tous les jeunes, j'ai été frustrée. Je me suis dit, purée, genre des études, je n'ai pas trouvé de taf, on est tous un peu stressés. on prend un peu ce qui vient, parce qu'à un moment donné, on est indépendisé, on n'habite plus chez nos parents, des fois on a un appartement à payer, etc. Donc on est tous un peu passés par là. Bon, après, comme je dis, tout petit, on gravit les échelons, mais je trouve que c'est important vraiment de dire aux jeunes, enfin, c'est pas si facile. On y arrive tous, hein, mais c'est pas facile.
Ouais. Toi, t'as essayé de développer ton profil LinkedIn pour te mettre plus en avant ou...
Oui, carrément. Pour moi, LinkedIn, c'est, je pense, aujourd'hui, indépendamment que ça soit un portail de travail et de recrutement, c'est aussi un réseau social. Et ça, c'est super important de le dire aussi. Je pense que c'est un des canaux dans lequel un peu plus aussi penser Instagram, etc. et d'autres canaux après aussi en plus. Mais c'est vrai que LinkedIn, c'est un canal, je pense, essentiel pour parler de son branding et faire vraiment du branding personnel, développer ta notoriété individuelle. Parce que je pense que si tu as une bonne notoriété, toi, en tant que personne, après, derrière, ça peut t'ouvrir beaucoup plus de portes.
Est-ce que tu étais du genre à publier ton CV sur LinkedIn? Il y a beaucoup, moi, je trouve qu'il y a beaucoup d'apprentis community managers, de jeunes CM qui arrivent et bizarrement sur LinkedIn, ils publient un CV en A4 PDF souvent.
Ouais. Moi, je ne l'ai pas publié comme ça en mode je jette une bouteille à la mer et je cherche un emploi. Après, j'en connais beaucoup de mon entourage, j'en ai des cousins, des neveux, etc. qui le font. Mais. Moi, j'avais mon CV, en fait, qui était dans mon profil LinkedIn. Et puis, si les gens... Il était un peu en highlight, ce qu'on a maintenant sur LinkedIn. Si les gens voulaient cliquer dessus, ils l'avaient. Mais ce n'est pas quelque chose que je publiais comme ça, habitam aeternam, partout sur mon feed, comme ça, tout le temps. Mais si les gens veulent consulter mon profil, ils avaient accès à mon CV.
Ben, c'est vrai. Non, mais moi, je trouve ça étrange. C'est bien ce que tu dis de le mettre en highlight sur ton profil. Parce que quand tu publies comme ça dans un post, ça fait vraiment la personne qui s'est pas foulé, qui a pas cherché à réfléchir c'est quoi les codes de la plateforme, et pour un CM ça la fout mal, je trouve, pour un CM qui cherche du taf, quoi.
Je pense que c'est un peu un double tranchant, parce que si vraiment c'est pas cherché, etc., je suis d'accord, mais après c'est vrai que, et pour avoir été passé par là, parce que moi j'ai pas fait d'alternance par exemple, donc je sais, je sais pas ce que c'est que le stress de l'alternance. Moi j'ai le stress du stage mais pas de l'alternance. Je sais que les alternants ils galèrent énormément, mais énormément, à trouver des alternances de 1 an, 2 ans, et que c'est très stressant pour eux. Et c'est vrai que des fois même, ils trouvent leur alternance, mais 2 mois avant la fin de l'alternance, au début de l'alternance, leur embauche ou la personne qui est leur employeur les laisse tomber. Donc, je sais que j'ai déjà eu des posts du mode « Je jette une bouteille à la mer, s'il vous plaît, aidez-moi. » Donc, ce genre de post, je me dis que si c'est pas foulé et vraiment juste publié pour publier, non. Mais après, si c'est ce genre d'appel à l'aide, je trouve que c'est un bon moyen parce que les gens peuvent relayer et repartager. Je pense que c'est assez aussi efficace pour pouvoir aider ces genres de difficultés de ou profil, ces genres de personnes qui sont en galère d'alternance, quoi.
Ouais, c'est vrai, t'as raison dans ce que tu dis. Je vois aussi beaucoup de posts d'alternants qui disent « Ah, mais mon entreprise m'a lâché à un jour du début. » Je pense que c'est un stress horrible.
J'ai rien que quand je lis le post, j'ai mal au ventre pour eux. Quoi.
Ouais, c'est vrai. C'est vrai que c'est pas facile de sur le marché d'emploi, je pense, aujourd'hui, quand t'es CM et tu te lances, ça c'est vrai.
Quand t'es jeune, de toute façon, c'est pas facile.
Oui, c'est clair. Puis comme tu dis, ça vient petit à petit. Après, je pense que le métier de CM aujourd'hui, le social media manager, CM, tout ça, il est beaucoup plus populaire qu'avant. Il y a beaucoup plus de candidats sur le marché, on va dire. Et les offres, elles sont... Je ne pense pas que le volume d'offres est vraiment plus augmenté que ça.
J'ai pas l'impression, en fait. Ce que j'ai l'impression, c'est que comme c'est un peu le métier en vogue en ce moment, parce que c'est intéressant, hein, je n'ai pas le contraire, je veux dire, je le fais, c'est pour une raison. Mais aujourd'hui, il y a tellement d'études et tellement de formations sur ce domaine-là qu'il y a beaucoup de personnes qui en ressortent, et du coup, il y a beaucoup de demandes, mais il n'y a pas tant de ça d'offres. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on arrive sur un marché du travail où des fois, pour une offre d'emploi, on a 400 demandes. Moi, je sais que pour Metricool, dans mes souvenirs, je crois que moi, quand j'avais postulé, il y avait 200 personnes qui avaient postulé pour la même offre. Je veux dire, et j'ai été choisie parmi les 200. Je veux dire, c'est les Hunger Games un peu.
Mais tu sais ce qui a fait la différence? Est-ce que tu te souviens où tu as demandé ensuite ou quoi?
Alors, non, pas réellement. Après, je pense que ce qui a peut-être fait aussi la différence, c'est que je parle 3 langues parfaitement. Donc, c'est vrai que quand on a un bagage de langue, ça aide beaucoup. Rien que vis-à-vis de ça et de fait d'avoir travaillé pour marché français depuis l'Espagne. Enfin, je veux dire, j'habitais déjà en Espagne, donc c'est vrai que ça aide aussi.
C'est vrai que c'est un atout considérable parce que quand on sait... Oui, mais c'est cool, c'est espagnol et ça veut se développer sur le marché français, donc forcément...
Mais après, c'est vrai que voilà, en interne, par exemple, enfin, on pourra en revenir, mais c'est vrai qu'en interne, dans notre équipe Maître Cool France, aujourd'hui, On est 5. Là, on est en train de recruter un SEO senior pour nous aider. Bon, peut-être que bientôt, on recrutera aussi un CM. Mais là, on est en train de recruter justement un SEO senior. Et aujourd'hui, dans le Metricool France, du moins dans notre équipe, on parle tous espagnol parfaitement. Bon, il y a certaines dimensions du marketing de notre département de marketing France. Il y a des personnes qui ne parlent pas forcément français, mais c'est vrai que l'anglais et l'espagnol, c'est enfin surtout l'anglais aujourd'hui maintenant, parce qu'on développe aussi le market aux US, donc on est obligé aussi de communiquer avec le reste de la team en anglais. Donc c'est vrai que constamment, en fait, dans l'entreprise et au sein de notre équipe, on switch dans les trois langues, français, anglais et espagnol, constamment, quoi.
Ouais, c'est sûr que là, être trilingue, ça aide forcément que. Et tu disais que vous étiez 5 dans l'équipe, c'est ça? Au total?
C'est ça. On est 5 dans l'équipe France. Alors, dans l'équipe France, on est 5 de marketing.
D'accord.
Dans Metricool, ensemble, on est aujourd'hui un peu plus de 60 personnes.
D'accord.
On est un peu plus de 60 personnes et on est tous dispatchés. Je veux dire, on n'a pas de bureau physique. On avait un bureau physique il y a encore quelques années. Depuis le Covid, le SEO Juan Pablo a dit qu'en fait, il n'y avait pas de nécessité réelle d'avoir un bureau parce que, en fait, on était tous aussi efficaces qu'on était au bureau chez nous. Donc depuis 2020, en fait, on est tous en 100% remote, c'est-à-dire que la philosophie d'entreprise, c'est vous pouvez travailler d'où vous voulez. On n'a pas d'horaire fixe de travail non plus, c'est-à-dire qu'on travaille un travail, c'est-à-dire que c'est nous-mêmes qui gérons notre horaire, c'est-à-dire que on ne fait pas du 9h-18h, jamais je le fais d'ailleurs. Je gère un peu. Si par exemple il y a des jours où le vendredi par exemple en général on aime tous finir plus tôt, donc ce qu'on fait c'est que moi je peux commencer à travailler à 7h et je termine de bosser à 1h par exemple.
Okay.
Donc c'est vrai que c'est un peu nous qui gérons notre emploi du temps comme on veut, et la philosophie d'entreprise c'est vraiment tu travailles en fonction de tes objectifs et pas réellement sur un horaire, parce que, et surtout nous qui sommes dans la création de contenu et on est tous dans le marketing digital et dans tout ce qui est un petit peu penser, avoir des idées. Moi j'ai pas des idées de 9h à 18h, je veux dire, mais j'adorerais, hein, mais c'est pas possible. Sinon, je m'appelle à mon ami ChatGPT pour m'aider, quoi. Mais sinon, je veux dire, moi, être productive pendant 8 heures d'affilée, c'est pas possible. Il y a des fois où je suis productive, il y a des jours avec et des jours sans.
Ah, tu vois, c'est vraiment très intéressant, cette structure libre comme ça où tu bosses. Est-ce que t'as un logiciel qui vérifie ce que tu fais, ou tu dois marquer un suivi quelque part ou quoi? Parce que.
Alors, légalement.
Comment ça se passe? Ouais.
Légalement, en Espagne, il faut pointer. Je veux dire, il y a une loi qui l'oblige, comme
D'accord.
en France. Où on pointe nos horaires. On pointe nos horaires tous. Moi, je pointe mes horaires, je fais du 9h-18, mais je ne le fais réellement. C'est-à-dire que d'un point de vue légal, oui, on pointe, mais dans le quotidien, non, on ne pointe pas forcément. En fait, il n'y a pas de contrôle. Je pense que c'est vraiment... c'est une question de bonne foi, c'est une question de confiance aussi vis-à-vis de nous, de nous-mêmes, en fait, la confiance qu'on porte à notre travail. Je veux dire, après, de toute façon... C'est très simple. On n'est pas sur des horaires, mais on est sur des objectifs. Si, pour pas dire autrement, et je vais peut-être pas forcément user un terme très joli, mais si tu ne fous rien de ta journée, évidemment, dans les objectifs, ça va se voir. Donc, en fait, les objectifs, c'est très simple. Je veux dire, les objectifs, si tu travailles, ils sont là. Si tu travailles pas, ils sont pas là. Donc,
voilà,
c'est facile de mesurer, en fait.
Oui, c'est clair. Et toi, comment on fait pour mesurer? Quels sont les indicateurs pour mesurer tes objectifs à toi de social media manager dans la boîte?
Alors, nous, on travaille par période de trimestre, c'est-à-dire qu'on a des périodes de 4 mois. Par 4 mois, on travaille. Par exemple, là, on vient d'établir nos nouveaux objectifs de janvier à avril. Qu'est-ce
D'accord.
qu'on fait? On pense les objectifs d'un point de vue général, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on veut et vers où est-ce qu'on veut aller d'un point de vue global de la boîte. Et ensuite, on développe par département. Département marketing, département vente, département développement produit, département customer success, etc. Et dans le département marketing, on développe un peu vers où est-ce qu'on veut aller. Là, par exemple, notre objectif sur les prochains mois, c'est développer des nouveaux canaux. Ça peut être un réseau social, ça peut être développer l'ad, ça peut être développer des groupes, ça peut être développer des points. Et moi, ensuite, après, ce que je fais, c'est que j'évalue vers où est-ce que je fais un constat. Je me dis, OK, en France, sur chaque réseau social, j'analyse comment est-ce qu'on va, vers où on veut aller, et entre guillemets, comment est-ce que je vais réussir à aller vers où est-ce que je veux aller. Après, ça doit être des objectifs réalistes. Moi, je veux dire, aujourd'hui, je regarde pas le nombre de followers, c'est une chose, mais ensuite, moi, ce qui m'intéresse, c'est l'interaction, peut-être de faire des posts qui convertissent, c'est-à-dire de me dire que d'un post qui avant pouvait faire peut-être 40 likes, mais qui convertissait, qui avait 60% ou 70 personnes qui l'enregistraient, moi, ça m'intéresse, je préfère avoir moins de likes, mais plus de personnes qui partagent, et plus de personnes qui commentent, et plus de personnes qui enregistrent mon contenu.
Ok,
donc après,
là,
c'est un peu moi qui...
Ouais.
Je suis vraiment dans un objectif de conversion de... Pas de notoriété. Aujourd'hui, en fait, Metricool France, il y a encore un an, quand je suis arrivée, l'objectif, c'était de gagner la notoriété. Maintenant,
D'accord.
on peut dire que dans notre objectif, dans notre liste de checkpoints, on peut dire que maintenant, la visibilité aujourd'hui, je pense qu'on l'a. Je pense qu'aujourd'hui, sur le marché, on a développé notre visibilité. Maintenant, aujourd'hui, ce qui nous intéresse, nous, c'est de convertir. C'est-à-dire que si je fais une collaboration, par exemple, de 3000 abonnés que j'ai gagnés, moi, j'aimerais bien qu'il y ait au moins 40% de conversion derrière de personnes qui s'inscrivent à Metricool. Donc aujourd'hui, moi, je pense toujours en conversion.
D'accord. Donc, on va dire que l'objectif, là, c'est la visibilité, c'est atteint. Ça, tu l'as mesuré grâce à peut-être aux vues de vidéos, aux likes, etc. En termes d'indicateurs.
Tout simplement avec les statistiques de Metricool.
Ouais, carrément, complètement. Puis là, aujourd'hui, c'était plutôt sur un objectif d'engagement. Avec toi, tu recherches les gens, à la fois les enregistrements, mais aussi les clics sur les liens, peut-être le taux de clic ou.
Cherche tout ce qui est le taux d'engagement. Moi, je le prends. Le taux d'engagement, pour moi, c'est pas la métrique la plus importante. C'est les interactions, parce que le taux d'engagement, il va toujours diminuer quand tu vas avoir plus d'abonnés. Donc, c'est vraiment à prendre avec des pincettes comme métrique, parce que plus tu as d'abonnés, plus le taux d'engagement va être bas. Et ça, c'est un constat. C'est-à-dire que tu peux avoir, je sais pas, 1 million d'abonnés. Et ton engagement, il va être super bas, mais parce qu'en fait, c'est normal, de tes 1 million d'abonnés, tu vas peut-être avoir, je sais pas, 400 000 personnes qui vont interagir avec toi, et ça va être des bonnes personnes. Ou tu peux avoir 1 million d'abonnés, et à l'inverse, avoir 3 pélos qui vont interagir avec ton contenu, et là, t'es pas non plus intéressant vis-à-vis de la communauté non plus.
Ouais, c'est clair. Mais, c'est intéressant. En tout cas, là, tu définis donc un objectif trimestriel, ensuite, tu définis des indicateurs de mesure. Et en fait, tes employeurs, eux, ils voient que tu as atteint ton objectif quand tu as atteint, en montrant, en tout cas, la moyenne, le taux de conversion. Alors, le taux de conversion, tu le mesures comment ? Avec des clics sur les liens ou tu vas aussi derrière sur Google Analytics pour regarder qui a acheté ou qui a téléchargé
Alors, nous, là, on a des outils en interne qu'on utilise pour mesurer les impacts, etc., des campagnes qu'on fait. Mais aujourd'hui, le meilleur moyen de traquer comment fonctionne et ce que tu... Parce que je veux dire, faire du contenu sans... D'ailleurs, aujourd'hui, j'ai publié juste un post sur LinkedIn en disant ça. Publier sans avoir un objectif de ce qu'on veut partager, ce qu'on veut véhiculer derrière, ça, c'est rien, en fait. C'est perdre son temps, littéralement, et c'est de perdre du temps à écrire et penser et convertir un post qui n'a pas d'impact derrière. Faut penser qu'est-ce qu'on veut arriver avec ça et surtout... Une fois qu'on a fait une action, c'est pouvoir traquer, en fait, si notre post, il a fonctionné ou pas. Et le meilleur moyen de traquer un post, c'est d'utiliser des UTM. Et moi, je mets des UTM partout.
Eh ben, tu vois...
Je mets des UTM partout.
Ça, c'est très intéressant. Pour un CM qui débute un peu, qui comprend pas ce que c'est un UTM, comment tu l'expliques ?
Alors... Aller un UTM, c'est entre guillemets, aller un peu sur les bords. C'est un exemple débile, mais je pense que ça peut toujours être facile à expliquer. Un UTM, pour moi, si je l'explique à quelqu'un qui n'a aucune idée, c'est tout simplement un lien qui va permettre de pouvoir suivre un petit peu la carotte. C'est un peu courir après derrière ta carotte et voir si ta carotte, tu vas pouvoir la vendre ou pas. Et pour pouvoir vendre ta carotte, si tu ne suis pas un petit peu l'acheminement de ta carotte, tu ne pourras pas savoir où est-ce qu'elle va atterrir. C'est un peu comme les envois de courrier. Pourquoi est-ce qu'on prend des recommandés ? Le recommandé, parce qu'on veut savoir si notre courrier est bien arrivé à destination. Et on paye cet extra d'argent pour justement suivre notre courrier pour savoir qu'il arrive à bonne destination. Les UTM, c'est la même chose. On veut savoir si ça arrive à bonne destination, on veut savoir si ça arrivait à notre mamie, par exemple. Justement, on va prendre ce lien pour justement traquer cet acheminement jusqu'à la personne finale. Et le lien tracking, ça permet en fait de voir si ce qu'on fait et ce qu'on communique et ce qu'on véhicule sur les réseaux sociaux, ça fonctionne ou ça fonctionne pas.
Ouais. Du coup, cet UTM, tu fais comment pour le paramétrer concrètement ? Tu utilises un outil particulier ou
On a créé un Excel, nous, en interne. D'ailleurs, je pourrais le partager si tu veux après. Tu pourras mettre en description pour ta communauté parce qu'on l'utilise et on le donne en disponibilité aux gens. Et après, en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on le met en connexion soit avec Analytics, on utilise Analytics, et après aussi, ce que nous, on utilise comme outil en interne, on utilise Amplitude. Donc, en fait, moi, j'ai tous mes suivis avec Amplitude. Donc, en fait, je vois avec mon lien, sur Amplitude, les personnes qui vont convertir à ce que je véhicule.
Ok. Et du coup, tu crées ton lien. C'est toi qui définis, il y a le truc de médium, source, je ne sais plus quoi, là. Mm-hmm. Enfin, tu définis les différents paramètres du TM et tu les inventes pas. Hein. Ils sont, il y a des
codes. Non, je les invente pas. Oui, il y a des codes, il y a des lead magnets. Moi, en général, c'est toujours le même. D'ailleurs, si je regarde un peu, moi, parce que j'ai mes UTM ouverts tout le temps. J'ai quasiment le trois quarts de ma source, c'est social dans mon cas, parce qu'après on a aussi des documents des UTM qui sont différents en fonction des choses qu'on va communiquer. Si on communique pour une newsletter, on va avoir un document de UTM qui va être différent. Si on communique à travers les liens YouTube, les UTM sont différents. Et si on communique sur les réseaux sociaux, les UTM aussi sont différents. Moi, celui que j'utilise au quotidien, c'est celui des réseaux sociaux.
D'accord.
Je te partagerai celui-là de toute façon après si tu veux.
Trop bien. Et pour si par exemple tu fais une story Instagram, genre tant que tu mets le lien dans la story là, tu mets le lien avec les UTM et en fait dans.
Et je mets l'UTM.
Voilà. Et quand tu vérifies à la fin sur ton reporting à la fin de la semaine ou enfin du mois, dans Google Analytics, tu vois qui sont les gens dans la story Instagram qui ont cliqué sur le lien, combien de personnes.
Après, ça on peut le voir directement sur la propre story Instagram. Story Instagram te dit combien de personnes ont cliqué, donc moi je regarde aussi. Je veux dire, je veux pas me leurrer. Oui. Je veux dire, j'utilise Metricool tout le temps, mais j'utilise aussi les stats des réseaux sociaux.
Ouais.
Donc c'est vrai que je regarde les stats d'Instagram, mais après, moi ce que je peux regarder, c'est qu'à travers mon outil, je peux regarder les personnes en fait qui vont peut-être se recenser à Metricool ou qui vont peut-être s'inscrire à Metricool via ce que j'aurais partagé.
Et c'est ça. Tes employeurs que
j'ai ma conversion derrière.
Ouais, c'est ça.
C'est ça.
Ok. Ouais, hyper cool. Tu vois, en fait, ça, c'était important de discuter avec toi parce que moi, j'en parle régulièrement. Et il y a beaucoup de CM qui comprennent pas le délire de tout ça. Ils pensent que les réseaux sociaux, c'est juste pour faire de l'engagement. Et en fait,
tout mesurer.
Ouais,
parce que c'est le meilleur moyen, même. C'est le meilleur moyen vis-à-vis même des clients parce que je veux dire, si ta commu, ils sont freelance, etc. Je veux dire, c'est ce qui va donner une preuve sociale et ce qui va donner en fait un exemple tangible en fait de ce que tu fais au quotidien et que justement en fait tu convertis parce que communiquer sur les réseaux sociaux, moi c'est pareil, je veux dire, on va prendre un exemple tout bête, comme je fais un peu de marketing d'influence aussi chez Metricool, quand on fait des collaborations, moi je demande toujours aux personnes, je dis ok, mais je veux super la visibilité, tout super tout ça, mais moi j'ai besoin de savoir en fait c'est quoi tes précédentes collaborations et qu'est-ce que tu as réussi avec ça, en fait? Combien est-ce que tu as converti de personnes en fait de la collaboration? Parce que moi, que la personne, elle ait fait 8000 vues, c'est super, mais en fait, qu'est-ce que ça gagne derrière? Parce que si tu fais 8000 vues sur une vidéo et sur un reel, c'est super, hein, je dis pas le contraire, mais moi, je fais pas 8000 vues sur mes reels, j'adorerais faire ça, mais je préfère faire 2000 vues, mais avoir peut-être 15 personnes ou 20 personnes qui vont justement s'inscrire après avec mon reel que j'aurais fait.
Ouais, c'est sûr. Après, tu peux pas mettre de lien sur un reel.
Non, évidemment, mais je prends un exemple, je sais pas, d'une vidéo sur YouTube, par exemple, on peut mettre des vidéos relationnelles, on peut mettre par exemple aussi des liens sur Facebook, je veux dire, on peut mettre, il y a d'autres sources aussi.
Ouais, totalement. Après, le reel, c'est pas forcément pour la conversion en objectif.
Non.
Ouais, bon, c'est super cette explication sur les UTM. C'est vrai que, mais aussi bien, tu disais pour les freelances c'est important, mais moi je pense que c'est aussi important pour les CM salariés qui cherchent un job et qui veulent montrer que.
Ah, mais il faut tout mesurer.
Ouais, ouais.
Et même, je trouve que c'est bien de mesurer parce qu'en fait, justement, si on voit sur un constat, quand on fait une analyse globale, on voit qu'en fait, on a peut-être. Le 50%, 60% de ce qu'on a tracé et ce qu'on a mesuré, on peut en fait le catégoriser par catégorie de choses analysées et on voit que peut-être le 40% restant, on ne sait pas d'où ça provient. Et justement, ce 40% restant peut se dire, est-ce que c'est parce que je n'ai pas mesuré? Est-ce que c'est parce que, par exemple, j'ai fait une collaboration avec quelqu'un et justement, les personnes qui viennent d'arriver sur mon site ou sur ce que je vais vendre, ça vient de la collaboration et justement j'ai 40 personnes de conversion sur quelque chose qui n'est externe à moi parce qu'en fait je peux pas mesurer moi l'efficacité directement d'un créateur de contenu avec qui on collabore parce que j'ai pas accès à sa communauté. Moi je peux lui donner des liens d'affiliés, je peux lui demander de pouvoir mettre certains types de liens, mais si les personnes elles viennent directement parce qu'elles ont été mettre Metricool sur Google et elles se recensent directement, moi je peux pas le mesurer, mais je saurais que ça va être très relationnel et très lié à la collaboration que j'aurais fait parce que justement j'aurais eu un boom de personnes qui se sont recensées grâce à cette collaboration. D'où l'importance de mesurer.
Ouais, c'est clair, super. Pour ce petit topo là, c'est important.
Pardon, j'ai un peu trop étalé sur le sujet.
Non, mais c'est pas du tout, t'es totalement dans le sujet, tu vois, parce que je pense que les. Comme je l'ai répété, je l'ai dit tout à l'heure, mais aujourd'hui. Les CM, enfin les gens qui veulent faire CM, les jeunes ou quoi, qui veulent se lancer, ils s'imaginent que qu'être community manager, c'est être influenceur limite, quoi, tu vois, enfin, oui. C'est faire des vidéos, des machins.
J'aimerais bien avoir des influenceurs en plus, alors, hein,
c'est... Non, mais c'est, en fait, il faut être hyper organisé pour être CM, tu vois, il faut être stratégique, tu vois, donc...
Très stratégique.
Ouais, et ça, moi, je le vois pas trop, tu vois, moi, je vois surtout les CM, comment créer un carrousel sur Canva, tu vois. Ça fait partie un peu du job, mais de CM à social media manager, le pas, il est, enfin, on est vite arrivé, quoi. Hein. Dans la plupart des entreprises, CM, ils sont tout seuls à créer du contenu. Donc, quand t'es la seule personne en marketing dans ton entreprise, t'as intérêt aussi à savoir comment mesurer, parce que sinon, ton boss, il va te dire à un moment, hey, je te paye tous les mois et je vois pas ce que t'apportes vraiment.
Mais là, après, c'est un peu encore la faute des entreprises. Parce qu'aujourd'hui, je veux dire, le métier de CM, le métier de SMM, je veux dire, même, on en a parlé tous les deux, il y a une certaine distinction entre être social media manager et community manager. Mais si aujourd'hui, dans une entreprise, l'entreprise, elle n'a pas le budget marketing ou elle n'a pas le budget pour employer deux personnes pour s'occuper de deux tâches différentes, elle va faire un combo et elle va embaucher deux personnes. Mais ouais. Ça, c'est encore un petit peu la faute aux entreprises parce que les mœurs, c'est pas aussi facile de les enlever comme ça. Aujourd'hui, les entreprises, elles commencent à peine à comprendre l'importance du marketing et l'importance du marketing digital et des réseaux sociaux pour justement convertir un maximum. Donc, je pense que petit à petit, ça va se faire. Mais évidemment, aujourd'hui, entre embaucher un social media manager et un community manager, ils vont dire, bah, je veux dire un community manager, et il va faire tout. Et voilà.
Ouais.
Ça ne devrait pas être comme ça, non. Mais aujourd'hui, bah, c'est un petit peu aussi ce que notre métier nous oblige un peu à faire. Mais ça c'est la société qui est comme ça.
Oui. Ouais, c'est bon. Là, on part un peu dans. Mais c'est intéressant de parler de ça avec toi parce que c'est pas souvent qu'on aborde ces questions-là en dehors d'un podcast ou quoi. Donc c'est vrai que ouais, c'est pas mal de parler de tout ça. Quoi. Du coup, pour si je reviens un peu dans le sujet de Metricool, pour toi, t'es social media manager pour Metricool. C'est quoi tes missions au quotidien?
Alors, je m'appelle Auréane la multi-casquette. Chez Metricool, du coup, je suis social media manager, c'est-à-dire que je pense la stratégie, je la mets en place pour chaque réseau social, je pense un peu objectif par année, après je développe par trimestre et après je développe un peu au mois et après au fonction, évidemment, je vais actualiser et je vais vivre un peu au jour le jour parce que les algorithmes changent, les réseaux sociaux changent, il y a des nouveaux réseaux sociaux qui arrivent comme Thread.
Ouais. Ouais,
je vais un peu aussi au jour le jour, donc ça, il faut être aussi super à l'affût des tendances, donc de toute façon, on en reviendra. Mais après aussi, je m'occupe de toute la partie établir la stratégie. Je fais la création de contenu, c'est-à-dire que je pense, je veux dire, tout ce qu'on voit sur les réseaux sociaux, toutes les publications qu'on voit sur les réseaux sociaux, c'est moi qui les crée directement. Donc je pars aussi un petit peu la partie création de contenu. Je fais un peu aussi de community management, c'est-à-dire que comme je dis, je fais plein de choses à la fois. Ouais. Je fais la partie community management et j'ai juste voilà cette chance que je suis pas toute seule derrière, c'est-à-dire que si j'ai besoin de faire toutes ces choses-là des fois, et nous notre politique un peu d'entreprise chez Metricool et aussi moi vis-à-vis des personnes, je veux dire, je pense qu'aujourd'hui pour pouvoir prôner d'avoir une communauté qui reste et qui interagit et qui partage des choses avec vous, bah c'est d'interagir, c'est de parler avec eux, c'est de échanger avec eux par DM. Donc pour nous, ça c'est super important. Donc c'est vrai que moi j'aime bien répondre et j'aime pas justement ne pas répondre. Après, je vais mentir si je te dis que ça m'est pas arrivé des fois de laisser quelqu'un en plan et de m'en rendre compte 3 jours après parce que j'ai dit oh, je répondrai après et finalement je sais pas, j'ai trop de trucs qui sont arrivés en même temps et j'ai dit, et 3 jours après je dis ah, j'ai pas répondu à cette personne. Mais on essaie toujours de répondre, ou sinon moi je demande toujours à mes collègues, bah du coup on a Sarah qui est la country manager, on a Chloé qui s'occupe de toute la partie un petit peu YouTube et webinar, on a Barbara qui s'occupe de toute la partie SEO copywriting, et on a Joseph qui est notre videomaker et qui s'occupe de toute la partie bah, création de vidéos, videomaker, bah de toute la partie YouTube et vidéos qu'on partage sur les réseaux sociaux. Donc un peu entre les 5, on va un peu se répartir un petit peu qui répond à quoi, ou des fois quand j'ai pas le temps. Pareil aussi des fois de faire des stories parce que bon c'est bien de mettre ma tête mais il n'y a pas que moi donc c'est vrai qu'aussi si on peut échanger un petit peu et que aussi qui a derrière Metricool France c'est important pour nous donc c'est vrai que je fais un peu de ça et après je suis aussi un petit peu je me charge de la partie marketing influence avec Sarah, on est toutes les deux sur la partie le pôle marketing influence et on s'occupe de tout ce qui est un petit peu la gestion des collaborations, on fait un petit peu du JC aussi, on s'occupe peut-être aussi de fermer des collaborations et des événements, par exemple on a quelques événements sur lesquels on sera présente à Paris en mars. Donc, on fait pas mal de choses.
Wow. Tu m'as cloué, là. Comment c'est possible de faire autant de choses? Salut.
Je me pose la même question, je sais pas comment je fais.
Ouais, non, mais c'est énorme. Mais il y a quoi de plateforme sociale à gérer?
Alors, je gère Thread en manuel, comme tout le monde aujourd'hui, parce que
Ouais.
j'espère qu'on pourra bientôt programmer.
Ouais.
On vous donnera le feu vert quand nous-mêmes on sera sur Facebook.
Attends, juste avant de continuer, tu vois, Thread,
oui.
Pourquoi tu... Est-ce que ça vaut le coup? Tu penses que ça vaut le coup de s'investir dessus en tant que marque? Enfin, les CM devraient s'y intéresser plus que ça ou pas? Parce que moi, en fait, je cherchais les statistiques d'utilisation l'autre jour. Après, on sait tous que quand une plateforme démarre, les statistiques, bon, bah voilà, ça démarre aussi. Mais tu vois, c'est quoi la stratégie d'aller sur Thread? Voilà, c'est impossible à dire ce truc. Sur Thread.
sur Thread. Je pense qu'aujourd'hui, et d'ailleurs, on a fait le constat hier parce que je t'ai dit, on parlait justement de stratégie avec Sarah, la country manager, pour établir la stratégie de médias sur 2024. Aujourd'hui, sur X, parce que du coup, c'est plus Twitter, sur X, interagir, c'est très compliqué. Et gagner des abonnés sur Twitter, c'est aussi très cartonné parce qu'il y a il y a beaucoup de posts à valeur ajoutée, beaucoup de fils de discussion avec forte valeur ajoutée sur X. Je dis pas que c'est impossible, hein.
Ouais,
parce
qu'il
y en a qui arrivent à le faire, mais c'est un réseau social qui est tellement grand et il y a tellement d'utilisateurs aujourd'hui que c'est vrai que ça se perd un peu plus. Et aussi, il faut dire ce qui est, il y a eu tellement de changements dans moins d'un an que c'est... Nous, on est au courant parce que, je veux dire, c'est notre travail. On est aussi au courant de tout ce qui se passe sur X. Mais je veux dire, il n'y a pas une semaine où il n'y a pas des changements avec Elon Musk. Il n'y a pas une semaine où il y a des nouveautés. Il n'y a pas une semaine où il enlève des choses. Donc, c'est vrai qu'en fait, on est un peu tous dépassés. Même nous, on est un peu dépassés avec ce qui se passe sur X. Donc, ce que j'aime beaucoup de Thread et ce qu'on prend beaucoup avec Thread, c'est qu'on a l'interaction, en fait, sur le pouce. Donc, de pouvoir interagir comme ça avec tout le temps. Après, je pense que ça va s'essouffler, hein, parce que, de toute façon, aujourd'hui, Thread, il n'y a pas beaucoup d'éléments dessus.
Ouais.
Mais je pense que là, c'est encore un peu le hype. Là, je pense que c'est un peu en train de se dégonfler, mais ça va revenir après, je pense, quand il y aura beaucoup plus d'informations sur les statistiques, sur un peu plus de fonctionnalités. Mais en tout cas, moi, je suis très contente. Après, de toute façon, quelle stratégie à établir sur Thread pour quelqu'un qui vient d'arriver sur Thread, si j'avais à t'en donner une, c'est d'essayer de faire un peu tout, quoi. Nous, on essaie de tout. On fait des mèmes, on fait des gifs, on fait des carousels, on fait des questions. On fait tout.
Ce qui est intéressant, moi, ce que je vois, ce que j'imagine de la part de Metricool, il y a quand même une bonne base de une bonne cible pour Metricool sur Threads, quoi. Ce sont souvent des solopreneurs, des personnes qui n'ont pas trop le temps de gérer les réseaux sociaux, tout ça. Donc, je pense aussi que c'est intéressant pour Metricool, d'être présent sur Threads.
C'est intéressant pour nous, mais c'est vrai que nous, on espère qu'un jour, moi qui programme tout en avance avec Metricool, de voir en train de programmer de pas pouvoir programmer sur Thread, d'être présente sur un moment donné avec Thread, d'interagir en même temps, etc. C'est aussi un investissement en plus, mais c'est un investissement que je me dédie un peu dans la journée. Parce que je sais que je peux programmer après derrière, mais comme, du coup, pour revenir à ce qu'on disait, quand t'as plusieurs canaux de communication à gérer et on a quand même pas mal à gérer avec Metricool, c'est vrai qu'il faut être super organisé tout le temps, quoi.
Donc t'as Thread et ensuite...
Thread, X, LinkedIn, Facebook, Instagram, YouTube. On va bientôt lancer Pinterest.
Oh, je pensais que tu allais dire TikTok, tu vois.
On a TikTok aussi, pardon, j'avais oublié.
Ah, d'accord, okay. En fait, ouais, sur toutes les grandes plateformes.
On a TikTok.
Ouais.
On n'a pas Twitter. Enfin, on a Twitch parce qu'on peut connecter Twitch avec Metricool, mais on n'a pas un compte Twitch parce qu'on n'en a pas forcément l'utilité de faire des streaming en direct.
Ouais. Mais toi, il y a YouTube, TikTok, Thread, Facebook, Instagram, LinkedIn. Bon, là, vous êtes partout, quoi, en fait.
Ouais. Oui.
C'est OK. Mais du coup, quand t'es partout comme ça... Tu fais comment au niveau des contenus? Est-ce que tu recycles? Tu transformes des... C'est quoi la strat? Parce que moi, par exemple, bon, moi je te donne la mienne, tu vois, mais moi ça n'a rien à voir, je ne suis pas un SaaS comme Metricool ou quoi. Moi je vends des accompagnements pour les community managers, j'ai une communauté CM libre là, que je lance à la fin du mois. Et du coup, moi, pour vendre ça, j'ai ma chaîne YouTube, j'ai environ 1000 abonnés dessus, tu vois, j'ai mon profil LinkedIn, j'ai mon compte Insta, et après il y a le podcast, mais après j'arrive pas trop à aller partout, quoi. Enfin, c'est difficile, mais je transforme mes contenus longs en contenus courts pour aller sur les plateformes de snacking type Insta, TikTok, LinkedIn. J'essaie d'expliquer ce que je fais sur Insta, TikTok, YouTube et podcast, et sur YouTube et podcast j'ai mes formats longs, quoi. Et toi, est-ce que tu transformes les contenus longs ou vous avez la force de frappe suffisante pour justement faire du contenu exclusif sur chaque plateforme?
On fait du contenu exclusif sur YouTube, c'est-à-dire que les formats longs, on les fait sur YouTube. Et ce qu'on fait, c'est qu'après, on les transforme en format court, pareil sur certains canaux, TikTok ou en short, ou en l'occurrence un peu aussi sur LinkedIn. Mais pourtant, on communique assez différemment sur chaque plateforme. Sur Thread, par exemple, là aujourd'hui, on va lancer un nouveau guide. Évidemment, quand on lance un guide, on lance des actions, on lance un nouveau produit, on ne va pas inventer, on ne va pas tergiverser sur comment on va expliquer, comment est-ce qu'on va présenter notre produit. Non, évidemment. Ouais. Mais après, c'est vrai que, par exemple, je sais pas, sur un carrousel que j'ai fait sur Instagram, moi, je vais le convertir en fil de discussion sur X. D'un carrousel sur Instagram, je vais le convertir en vidéo après. Donc, c'est vrai qu'on recycle énormément de contenu. Évidemment, on adapte aussi la communication sur chaque réseau social. Mais je veux dire, on a une force de frappe, oui, qui nous permet de diffuser sur différents canaux. Mais après aussi, on fait aussi beaucoup de choses similaires. Je veux dire, un sondage... Je vais publier par exemple le même sondage sur la communauté de YouTube, comme je vais pouvoir le partager sur LinkedIn par exemple, je veux dire. Parce que, en fait, un sondage, tu peux pas l'inventer non plus. Et si tu peux faire que les gens interagissent à un sondage, bah justement, plus il y a des canaux, mieux c'est.
Ouais, c'est vrai. En fait, ça s'ajoute à la fin.
Parce après, que tu mesures... ce que je fais, c'est que tous les 90 jours, mon objectif, c'est en fait, moi ce que je fais, c'est que tous les 90 jours, tous les 3 mois, j'analyse les meilleurs posts que j'ai fait et j'essaie de retrouver un peu les pain points et comment est-ce que je peux les développer d'une autre façon.
Ouais, c'est super intelligent. D'accord. Et en termes de fréquence, t'as combien de posts, t'as défini une fréquence de combien de posts par semaine sur chaque...
Sur Instagram, on est sur une fréquence de 6 à peu près. Sur
Attends,
Facebook...
6, ça comprend les carousels, les stories ou...
Non, ça comprend les publications. Les stories, c'est au jour le jour.
D'accord.
Les souris, c'est jour le jour. C'est quand j'ai le temps et quand j'ai envie. C'est voilà, quand j'ai le temps et quand j'ai envie.
Ouais.
C'est un peu au jour le jour. Ah, après, j'essaie d'en faire quand même, allez, un jour sur deux. Et sinon, je fais tous les jours, quoi. Après, le week-end, par exemple, évidemment, le week-end, me demandez pas de publier les stories.
D'accord. Poste simple, quoi. Ouais.
Okay. Carousel, on a à peu près une fréquence de 2. Ouais. Bah, si je te fais un peu le cumul, je fais à peu près entre 2 carousels à la semaine, ou je fais un carousel et je fais 2 infographies. On fait 2 reels, et après on fait soit un meme, soit un gif, soit on partage les Metri News de la semaine. Ça, c'est un peu d'accord. Comme on fait, donc ça fait aussi un autre carousel, ça dépend un peu. Sur LinkedIn, on a à peu près une fréquence de 3-4 à peu près par semaine.
Ouais.
Twitter, on a une fréquence de. Comme on a des listes automatiques aussi, on a du contenu evergreen qui se partage. Sur Twitter, on peut être facilement aller sur 20 publications à la semaine. Et sur Thread, on a à peu près aller une par jour, deux par jour. Et puis après, on interagit un petit peu aussi pareil.
À l'humeur.
Parce que bon, bah, du coup, c'est différent. Et TikTok, on est à peu près aller. On aimerait bien faire plus de vidéos, mais comme on dit, c'est vrai qu'entre faire une vidéo et peut-être répondre à des deadlines. On a à peu près une fréquence de 3-4 vidéos. Après, ça peut nous arriver de pas publier pendant une semaine sur TikTok parce qu'on n'a pas le temps et qu'on a d'autres priorités à côté. Quoi.
Ouais. Sur TikTok, c'est jamais des contenus, des contenus courts issus des contenus longs. Hein. C'est du exclusif TikTok.
Oui. Ce qu'on fait sur TikTok, c'est qu'après, en fait, on convertit en reel sur Instagram.
D'accord. Et... sur TikTok, du coup, pour faire des vidéos, vous faites plutôt appel à des créateurs de contenu ou c'est vous-même en interne? En fait, j'aurais dû aller voir avant, je suis pas allé voir.
Attends, je vais voir si je peux te montrer rapidement. Je veux dire, non, c'est notre boîte en interne. Oups là.
Ouais.
J'ai mes écouteurs qui sont connectés. Ouh là là. Pédale.
Ouais, parce
que
sinon,
j'ai une vidéo en même temps en direct.
Sinon, je peux aller voir sur mon portable et j'invite personne qui écoute ou qui regarde l'épisode à faire pareil. Mais...
C'est bon, c'est bon. J'avais mon audio de ma vidéo qui était connecté en même temps sur mon ordi, sur mon téléphone. Donc, c'est un peu... J'étais sourde pendant 30 secondes. Je sais pas là si on peut voir. Bah, là, on est là.
Ouais, je vois un peu, on voit un peu. Ouais.
Ah, mais là, du coup, je t'entends plus. Alors, attends.
Non, mais... j'ai mis TikTok sans faire exprès, ça fait du bruit. Ok. Ouais, je vois un peu. Donc, en fait, tu m'entends?
Attends.
Tu m'entends?
Je t'entends, mais j'attends que mes casques se reconnectent. J'ai eu une perte de connexion en connectant. Vas-y, parle-moi
Ok.
pour voir.
Je voulais dire un truc, ouais, t'incarnes la marque.
Aïe, je aïe, suis ambassadrice
on va
de
tout casser.
Pardon, attends, ça doit être c'est bon. Ça devrait être bon.
Ouais, ok, là c'est bon, je m'entends
c'est
plus
bon.
Dans
le bon.
Haut-parleur. Ouais, ok.
C'est
Et
bon.
Donc, bon, bah parfait. Et qu'est-ce que tu voulais dire? Ouais, donc, toi en tant que social media manager, tu te mets aussi en scène sur les vidéos quand même. Tu t'incarnes la marque, tu
Oui.
m'expliques cool, quoi.
Oui.
Et toi, ça, c'est un truc supplémentaire encore.
Oui,
Ouais.
oui.
Ouais.
Et je fais les
Ok.
webinars aussi, et je fais les
Ah,
vidéos
c'est
sur
ce que tu l'as fait?
YouTube.
Mais y a pas
Ouais.
une personne qui était chargée des webinars?
On a une
Tu
personne qui
m'as
est
dit dans
chargée des
l'équipe.
webinars. Oui, on a Chloé qui s'occupe des webinars, et en fait, mais elle
Ouais.
s'occupe de la gestion des webinars. Mais après, si tu veux, les personnes qui présentent les webinars, on se tourne un peu. C'est vrai que j'en fais beaucoup. Chloé
D'accord.
en fait, Sarah en fait, mais c'est vrai que je fais aussi des webinars. C'est-à-dire que le projet de webinar, c'est Chloé qui s'en occupe, c'est-à-dire c'est elle qui va un peu chercher les sources et un peu voir quel sujet on peut faire. Mais après, les personnes qui apparaissent le jour du webinar, on alterne parce qu'évidemment, c'est pas toujours la même personne qui va faire le webinar. C'est aussi intéressant d'avoir différentes personnes et de pouvoir apporter différentes valeurs.
Ok, ouais, bah écoute, c'est incroyable, ça rajoute encore un truc que tu fais. Donc, du coup, c'est quoi les différentes. Alors, comment tu fais pour t'organiser, pour créer tout ça, tu vois? Déjà, où tu le fais? Est-ce que tu as un outil que tu utilises en particulier? Et puis, les grandes étapes que tu fais sur la semaine? Parce que là, tous les contenus que tu m'as dit, moi, j'ai pas compté, mais il y en a bien, c'est 25-30 contenus par semaine, quoi.
Oui, facile, ouais.
Et
Alors, un
combien de
peu.
temps à l'avance tu planifies? Enfin, tout ça, c'est intéressant, quoi.
Ok. Alors, moi, ce que je fais, un peu, je travaille toujours du général au particulier. C'est-à-dire que je travaille toujours un peu, j'établis ma stratégie de mois à mois, c'est-à-dire, enfin, la stratégie globale marketing de social media. Je te dis, je te fais dans l'année, mais après, je divise par période. Mais après, la rédac et la création de contenu, je pense toujours du général au particulier. C'est-à-dire que je vais me poser un jour vers la fin du mois de janvier ou la mi-janvier. Je vais me poser pour penser toute la stratégie que je vais faire pour le mois de février, par exemple, parce que là, du coup, on rentre bientôt en février. Je vais
Ouais.
penser toute la stratégie, tous les posts que je vais faire pour février. Évidemment, il y a toujours des choses qui peuvent arriver en dernier moment. On a des produits, on a des fonctionnalités, on peut avoir un nouveau réseau social qui va arriver. On ne sait pas de quoi il fait demain. Mais si tu veux, j'ai un peu les idées, entre guillemets, la ligne, le fil conducteur de qu'est-ce que je vais partager durant le mois. Et après, je mets un peu les titres, je mets les bullet points. Je ne développe pas parce que ça peut, comme je te dis, ça peut évoluer au fur et à mesure. Et après, tu sais, quand tu rédiges, tu vas relire une première fois, tu vas dire, ah, c'est super. Tu vas relire une deuxième fois, tu vas dire, mon Dieu, qu'est-ce que c'est moche, qu'est-ce que j'ai écrit, ça ressemble à rien. Et tu vas changer. Donc, je vais vraiment te générer le particulier. Et après, moi, ce que je fais, c'est que chaque semaine ou toutes les 2 semaines, là, je développe mon contenu. Donc, en fait, un petit peu, mais de toute façon, pour rédiger le contenu, moi, j'utilise, entre guillemets, mes inséparables, j'ai toujours un Excel ouvert, toujours un Excel avec un peu les catégories de postes par semaine. J'ai toujours tout ça de rédigé. Et après, on utilise un document, c'est un document CSV en fait qu'on exporte et qu'après j'importe directement sur Metricool. Et en fait, ça va planifier directement tous mes postes. C'est-à-dire que je vais jamais planifier en manuel,
Oui.
jour par jour, les postes sur Metricool. Je vais les programmer et je vais rédiger tout sur mon Excel, mettre toutes mes photos sur mon Excel avec des liens et après j'importe directement tout le document sur Metricool. Et après, moi, j'ai juste à valider. Et ça va se programmer pour le mois suivant, pour la semaine suivante. Et après, un peu ce que je fais, c'est que lundi, moi, j'analyse tout. J'analyse un peu qu'est-ce que j'ai fait de la semaine, quel a été un peu le résultat, les conversions d'UTM, un peu tout ça, les collaborations. Donc, je fais un peu aussi analyse, influence. Et
Tu veux dire le
après,
lundi, t'étudies ce qui s'est passé la semaine passée, hein, c'est ça? Tous les lundis, quoi.
tous les
T'étudies.
lundis, je fais un peu le constat.
Ouais, d'accord.
Lundi,
De
je
la
fais un peu le
semaine, ouais.
constat de la semaine, de
D'accord.
l'influence, un peu je vois qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que je vais faire cette semaine. Je m'occupe de gérer un peu les points, comme je dis, les hot points que j'ai pas développés la semaine dernière. Donc, je m'occupe un peu de tout ce que j'avais pas fait le vendredi parce que bah, j'avais plus la force ou j'étais fatiguée. Parce que, comme je te dis, à un moment donné, on n'est
D'accord.
pas tout le temps productif.
Ouais.
Je réponds aux mails aussi parce qu'il y a pas mal d'emails qui rentrent. Donc, je profite pour répondre aux emails. Donc, je fais un peu tout ça le mardi, lundi matin. Et après,
D'accord.
lundi, si j'ai un peu de temps, je m'occupe de faire des vidéos, je m'occupe de faire des scripts aussi pour les vidéos YouTube parce que je fais des vidéos long format. Donc, je
Ah,
m'occupe de faire un
wow.
peu tout ça.
D'accord. Mais du coup, tu fais les scripts, mais tu tournes pas les vidéos, tu les enregistres pas le même jour. Tu
Je
t'écris
fais les
t'écris
scripts,
le. Ouais.
je fais les scripts et je les fais les vidéos.
Ah, ouais, direct. Cash.
Non,
Ok.
après on les valide, etc. Mais après, si tu veux, je fais les
D'accord.
vidéos aussi et tout.
Ouais, d'accord. Donc, t'as du matos pour ça aussi, tu le fais au smartphone avec des lumières ou
Non, là, j'ai mon téléphone, j'ai une lampe, là, j'ai deux lampes qui sont juste là, on dirait des terrains de foot.
Ouais,
J'ai
pareil.
une caméra, enfin, j'ai une caméra, j'ai un appareil photo maintenant, je vais le chercher. Hop,
ouais, super.
J'ai un trépied, j'ai un micro, j'ai des casques.
D'accord, ah oui, c'est une caméra, ouais, d'accord, ok. Donc,
on
ouais,
a la totale.
Il y a... D'accord, et tu tournes ça et après tu.
Qui s'occupe de toute la partie édition des vidéos. Et c'est lui qui s'occupe de tout éditer. C'est pour ça qu'une fois qu'on a fait le script, on se réunit toujours en général avec lui. Parce que lui, peut-être d'un point de vue un peu de DA, il va nous dire tiens, tu peux faire ça quand tu vas faire le script, tu peux faire ça dans la vidéo. Peut-être fais ci ou mets-toi comme ça je peux rajouter un plan, je peux rajouter un effet. Donc c'est vrai qu'aussi on voit avec lui parce que moi je rédige, je fais en fait le brut. Mais après, c'est lui qui le rend beau, comme je dis, et qui le donne plaisant à voir.
Ouais, excellent, c'est super. Parce qu'en fait, c'est vraiment, tu t'occupes vraiment de la partie hyper créa et tu fais pas tout ce qui est technique après. Et ça, c'est cool aussi, quoi.
Bah, je fais la partie un peu. Moi, tout ce qui est la partie DA, c'est-à-dire on a un DA aussi nous qui s'occupe des postes. C'est-à-dire que moi, je fais un peu des postes sur Canva parce qu'on délègue aussi un peu et moi je fais un peu pour aider et pour un petit peu désengorger un peu la quantité de travail parce qu'on a quand même plusieurs pays aussi. Oui. Mais c'est pas moi qui m'occupe de faire des postes sur Canva et de faire toute la DA derrière parce qu'on a des personnes pour ça. Moi je m'occupe vraiment de la création de contenu et après je m'occupe de toute la partie stratégie parce que imagine si en plus il fallait que je fasse les dessins et les designs.
Ouais, c'est énorme. Mais attends, mais tu viens de me dire un truc, mais oui, c'est vrai que vous êtes sur plusieurs pays, tu l'as dit tout au début aussi. Genre partout aux États-Unis là, en France, en Espagne, mais les contenus, toi tu travailles sur ceux sur la France, les canaux français.
Oui.
Comment ça se déploie à l'international? Est-ce que c'est des comptes qui sont différents en Espagne?
On a Metricool Spain, enfin Spain. En fait, on travaille pas vraiment par pays, on travaille par langue. C'est-à-dire qu'on a Metricool France parce que le contenu est en français, Metricool normal, c'est-à-dire tout ce qui est contenu anglo-saxon.
Ouais.
Contenu Spain, donc Metricool Espagne et Latam, parce que la force de frappe initiale, enfin je veux dire Metricool, c'est un produit espagnol et là jusqu'à maintenant, encore quelques années, aujourd'hui c'est les US aussi, mais la principale part du marché c'était toute l'Amérique du Sud parce que essentiellement on parle espagnol. Et on a aussi ouvert le marché ça fait quasiment 6 mois, on a ouvert le marché allemand aussi. Donc tout ce qui est un petit peu les personnes qui parlent allemand, donc t'as Allemagne, Autriche, Suisse allemande.
Okay.
Et après je pense que quelques communautés comme c'est par-ci par-là. Donc on a le contenu vraiment qui est différent. Le contenu il est local à chaque langue parce que la communauté en France n'est pas la même que la communauté en Espagne. La façon de communiquer n'est pas la même en France qu'en Espagne. Les mœurs ne sont pas les mêmes. Les façons
cultures,
de travailler, etc. Ouais. Les cultures sont totalement différentes. Et je pense qu'aujourd'hui, pour pénétrer un marché, il faut s'accoutumer à la coutume locale et pas forcément communiquer la même chose d'une langue à une autre parce que ça ne fonctionnera pas.
Mais tu vois, c'est marrant parce que tu dis qu'il y a le compte anglo-saxon. Du coup, et Royaume-Uni, les États-Unis, c'est une culture aussi qui est assez différente.
C'est ça. Donc, c'est vrai que quand on fait un contenu anglo-saxon, on travaille par langue, on pense vraiment la culture est différente. Mais comme c'est un marketing de niche et... Si on ne parle pas de voyage ou des choses comme ça, mais Metricool, comme c'est vraiment un marketing de niche et c'est vraiment un produit qui est très niché, en général, on parle aux mêmes personnes indépendamment du pays, c'est vraiment par langue.
D'accord, ouais, les social media managers, ils ont les mêmes problématiques.
Parce que par exemple, en France, on vient de jusqu'à maintenant, c'était France-Belgique, mais là, on a vraiment beaucoup, beaucoup de personnes qui sont en train de convertir chez Metricool, en tout cas en partie française. On a énormément de personnes qui convertissent au Maroc, énormément.
D'accord.
En Algérie aussi, beaucoup, et au Sénégal, énormément aussi. Et pourtant, je veux dire, les coutumes sont différentes, la culture est différente, et pourtant, on est agréablement surpris parce qu'on a énormément de personnes en provenance du Maroc qui convertissent beaucoup à Metricool. Donc ça, c'est
d'accord. Ah oui, ça c'est intéressant. Ok, ouais, écoute, d'accord. Donc, ça c'est donc toutes les plateformes. Donc, ouais, mais toi tu t'occupes vraiment de la France, quoi.
Ouais. Ah, oui, parce que si, en plus, fallait que je. Non. En fait, chaque différent pays. On a, par exemple, on a d'autres personnes pour le social media en Espagne, on a d'autres personnes pour le social media en Allemagne et d'autres personnes pour le social media aux US et enfin tout ce qui est un petit peu US, Australie, Canada, etc.
D'accord. Et ça, pour vous coordonner, vous voyez un peu chaque année ou
Non, on s'organise des meetings, on est tout le temps avec des, enfin pas trop non plus parce que c'est vrai que si on fait trop de meetings, on travaille pas à côté. Mais en tout cas, on travaille tous, on s'organise, on se fait des réunions. Mais après, c'est vrai qu'aussi, dans le point de vue divertissement, parce que ça peut être aussi de se dire, bah, en fait, tu vois jamais tes collègues, vous voyez jamais en vrai. Tous les ans, on organise un gros, gros week-end où, en fait, on se réunit tous. Et en fait, on est
D'accord.
tous au même endroit, à la même ville. Et c'est un
Ouais,
week-end
top.
toujours en septembre et on est tous ensemble.
D'accord. Ouais, donc ça, c'est intéressant d'avoir ces moments aussi où tu rencontres les autres social media managers d'autres pays, tu peux échanger avec eux. Et
C'est ça.
d'ailleurs, pour reprendre sur ton organisation, ta semaine type, tu vois, t'avais dit lundi, mardi, et mercredi, jeudi, vendredi, qu'est-ce que tu fais alors?
Je crée le contenu, je programme en général le vendredi, je programme tout mon contenu le vendredi pour la
Ouais,
semaine suivante.
d'accord.
Et après aussi le mardi, jeudi, c'est vraiment gestion quotidienne aussi, on a pas mal de réunions, on a les marketing, enfin on a les weekly marketing en France, on a la globale de marketing du coup avec tous les pays, donc c'est aussi pareil, les réunions un peu les grosses, les big réunions qu'on a toutes les semaines pour faire le point. Donc,
Ouais.
mardi, jeudi, c'est vraiment dédié à ça. Et puis, vraiment, pure contre la création de contenu, voir un petit peu qu'est-ce qui manque et gestion quotidienne des petits aléas, du quotidien.
D'accord. Pour trouver, tu vois, dans les étapes, dans ton organisation, pour trouver des idées, tu vas voir dans les stats, tu fais comment?
Je regarde les stats, je regarde ce qui marche pas, parce qu'évidemment, si ça marche pas, je me dis est-ce que c'est parce que je n'ai pas communiqué, parce que en fait, j'avais l'objectif dans ma tête, il était clair, mais vis-à-vis des autres, il n'était pas clair, et en fait, la valeur que je voulais convertir, elle n'était pas évidente vis-à-vis des autres. Donc, je réfléchis un peu comment est-ce que je peux améliorer, je regarde les posts qui ont très bien fonctionné et comment est-ce que je peux les adapter à un autre format. Je lis beaucoup, je regarde beaucoup les news, je regarde beaucoup qu'est-ce qui se passe, je m'inspire beaucoup, j'utilise beaucoup Pinterest aussi pour regarder un peu qu'est-ce qui se passe. Je regarde, c'est bête, hein, mais aussi être au courant de ce qui se passe un peu d'un point de vue cinématographique. Par exemple, il y avait les Golden Globes il y a une semaine, ça peut être toujours un bon moyen de faire des mèmes ou un bon moyen de faire des gifs. Pareil avec Barbie Madia, donc c'est vrai comment. Enfin, je regarde un petit peu tout ce qui se passe. Je consomme du contenu, c'est-à-dire je les gens qui disent oui, non, mais si tu veux réussir sur les réseaux sociaux, tu dois pas consommer le contenu, mais tu dois le créer. Bah ouais, mais je suis pas d'accord en fait, parce que si justement tu veux créer du contenu, t'as besoin d'en consommer aussi, quoi. Donc
Ouais,
je pense que
effectivement.
ce genre d'argument, en fait, je le prends vraiment avec des pincettes, parce que je vois les gens qui disent non, mais de toute façon, si tu veux rester sur les réseaux, tu dois pas consommer le contenu, tu dois le créer. Je dis ouais, ok, mais en fait, des fois, il y a les personnes qui créent du contenu que peut-être c'est intéressant de consommer, parce qu'en plus, toi, tu leur apportes de la valeur et eux, ils convertissent aussi derrière. Et après, toi, tu peux trouver des idées, dire ah, purée, c'est super intéressant, je peux faire la.
Ouais, c'est vrai que c'est intéressant. Est-ce qu'il y a un créateur ou une marque qui t'inspire, tu vois, au niveau de création des mèmes ou des contenus que tu trouves originaux et que tu aimes suivre régulièrement?
Netflix, je trouve qu'ils sont trop forts. Netflix, ils sont
Ah
vraiment trop, trop forts pour faire des mèmes et
ouais.
pour. Enfin, je les trouve. Mais toi, en France, en Espagne, parce que du coup, je consomme les deux pour les deux langues,
D'accord.
ils sont vraiment très, très forts. Après aussi beaucoup pour les. Par exemple, sur TikTok, je trouve que les trends aussi sont pas mal. C'est Ryanair. Je les trouve
Ouais,
géniaux.
ouais.
Je les trouve vraiment géniaux.
Ouais.
Après aussi, j'aime bien regarder. Sur Instagram, bon, évidemment, on est tous très axés sur Adam Mosseri, mais après aussi, moi, je
Oui.
regarde aussi beaucoup les articles de blog. Il y a Creapills, il y a J'ai un pote dans la com, BDM aussi, on regarde beaucoup. Donc,
On
c'est
regarde tous
vraiment
les mêmes, on a
aussi.
tous les mêmes fils, hein, j'ai l'impression.
Ah, ben oui, hein, on a tous les mêmes films, mais parce que c'est des référents. Après aussi, nous, bah,
Oui.
évidemment, Metricool, parce qu'on a aussi, nous, notre, enfin, on a
Oui.
notre article de blog, on a notre blog,
Ouais.
et c'est vrai que, par exemple, un des objectifs qu'on a, nous, cette année, c'est de devenir référent pour les personnes, c'est-à-dire que comme là je suis en train de mentionner BDM, bah, est-ce que Metricool, que ça puisse devenir aussi un référent pour les social media managers,
Ouais,
en tout cas dans l'année
d'accord.
2024.
Exact, ok. Ouais, bah c'est vrai que ce que tu as cité, Creapix. Bon, Creapix, moi, j'essaye d'éviter parce que souvent, après, tu tombes dans le truc et tu t'en sors plus, quoi.
Moi, je regarde de loin. Après aussi, je regarde beaucoup aussi Social Media Today, la BBC. Enfin, je regarde
Oui.
aussi un peu les
Ouais.
articles d'un point de vue un peu plus internationaux.
Je sais pas
Mais
si
je regarde pas mal de trucs, ouais.
tu vois, il y a la newsletter de Matt Navarra, là, c'est un anglais. Ça s'appelle Social Media Geek Out. Il l'envoie tous les vendredis, je crois. C'est une énorme newsletter.
Non, par exemple, tu vois, je regarde pas, mais après, par exemple, parce
Ouais.
qu'évidemment, vu qu'on collabore aussi avec eux d'un point de vue US, je regarde beaucoup le contenu de Brox, qui est très bon aussi sur
Je connais pas.
Instagram. C'est un
Ouais.
Américain, pareil, on regarde pas mal de contenu, mais après, c'est vrai que
Ok, cool.
vu qu'on collabore avec, pour moi, c'est évident, je regarde ce contenu aussi.
Ouais. Ben ouais. C'est vrai. Ben, en fait, avoir des sources d'inspiration, c'est hyper important. Ouais.
Ouais, mais
Pour,
c'est essentiel.
hmm.
Et après aussi, je pense que c'est super important, mais de parler avec d'autres personnes, quoi, parce que des fois, les idées, elles viennent pas toutes seules, et parler avec
Oui.
d'autres gens, c'est super important. Donc, c'est pour ça que
Ouais.
nous, des fois, avec l'équipe de social, Social, avec tous les pays confondus, on est 5 personnes pour l'équipe sociale. Donc, bah, des fois, on se réunit, on fait, allez, on fait un petit meeting. Donnez-moi des idées.
Ouais, bah ouais, c'est clair. Mais des fois, comme tu dis, des fois, à 18h, enfin, même avant 18h, on a plus d'idées, hein, faut le dire, c'est vrai. Hein. Et parler aux autres et tout, bah, ça permet de. Enfin, moi pour.
Ou
aller
même de demander
des
personnes extérieures.
Ouais, oui. Mais tu as rien à voir avec son boulot, oui, ça va, t'as raison. Hein.
Moi, des fois, je me pose avec mon copain, parce que bon, il vient pas du tout du marketing, il est commercial, donc il fait pas du tout du marketing, et des fois, je lui dis, allez, donne-moi des idées.
Le pauvre. Il veut bosser pour toi. Ouais, ouais.
Bah, non, mais
ouais,
c'est vrai, mais parce que lui, il consomme des contenus aussi, donc je me dis, peut-être que lui, il voit des trucs, il me dit, ah bah tiens, ça peut être intéressant, si tu fais ça, etc. Et je dis, ah ouais, en fait, c'est pas mal ce que tu dis, quoi.
Mais c'est vrai que moi, j'ai de nombreuses idées qui viennent aussi de ma copine, hein, qui consomme aussi pas mal de contenu sur les réseaux sociaux. Et,
bah, c'est et pour je, ça, c'est important.
Ça nourrit, ça, c'est vrai. Mais il faut pas le dire. Hein.
Non.
Il faut pas trop le dire. C'est mon conjoint qui m'a
donné
l'idée.
On garde ça pour nous.
Ouais, voilà. Donc, on compte sur vous pour pas trop le dire, non plus, d'ailleurs, ceux qui écoutent le podcast. Alors, tu vois, il y a Metrico qui a sorti une super étude il y a pas longtemps.
Mm-hmm.
Social Media qui est absolument phénoménal, je trouve. Une très grosse étude. Si tu pouvais te donner, enfin, dire c'est quoi les 5 grandes tendances à surveiller en 2024 en Social Media tirées de cette étude, ça serait quoi?
Alors, je dirais que c'est LinkedIn. Et aujourd'hui, enfin, sur l'étude qu'on a faite, on a comparé sur 2022-2023, on a plus de 3000% de partage. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, peu importe, indépendamment, il n'y a pas besoin d'avoir 1000 et un followers pour réussir sur LinkedIn. Je pense que si vous voulez créer du contenu, vous voulez créer une autorité de marque, vous serez vu. Il n'y a pas besoin, voilà, de commencer par quelqu'un, d'être le fils d'eux, d'être l'ami d'eux. Non, il n'y a pas de problème. Je pense que vous pouvez tous commencer avec 5 abonnés sur LinkedIn. Et si vous vraiment vous y mettez de la volonté, évidemment, vous faites des bons posts, vous pouvez rapidement escalader sur le réseau social. Aussi, autre très grande tendance qu'on peut voir au niveau certains social media qu'on peut observer sur les réseaux sociaux sur l'année 2024, ça va être l'IA. L'IA, évidemment, c'est indéniable, mais je pense que c'est moi et tout le monde le dit, c'est là pour rester et ça va... va falloir apprendre à travailler avec. C'est-à-dire que je pense qu'aujourd'hui, celui qui ne travaillera pas avec sera un petit peu, je pense, sur le banc de touche. Donc, d'où l'importance de savoir travailler, d'avoir les bons prompts, d'avoir les bons outils pour le faire. Parce que même moi aussi, hein, moi j'utilise ChatGPT quasiment pas tous les jours, mais presque, j'utilise ChatGPT ça aide, hein, je veux dire, tout le monde le fait, et c'est important d'utiliser parce que ça aide à automatiser et à avoir des meilleurs processus de création aussi, ou des meilleurs processus, ne serait-ce que pour trouver des idées, moi ça m'arrive, moi je suis très... je suis très celle qui fait des coquilles des fois et je m'en rends compte après, donc moi des fois ce que je fais c'est que je demande à ChatGPT, corrige.
Bref, moi je m'en sers pour trouver des idées supplémentaires auxquelles j'aurais jamais pensé en écrivant le post, où je lui donne la ligne éditoriale, je lui dis essaie de retravailler mon brouillon avec la ligne éditoriale et sortir un truc un peu plus intéressant pour la communauté.
Un peu plus poussé, ouais.
Ouais.
Non, mais et je trouve ça super bien de le faire parce que c'est juste savoir l'utiliser intelligemment et pas de l'utiliser n'importe comment. C'est comme pour tout, c'est comme pour tous les types de contenu qu'on utilise, mais c'est vrai que l'IA aujourd'hui, il faut vraiment. Nous, chez Metricool, on a aussi un assistant d'IA, donc je veux dire, même nous aussi, on s'y est mis au niveau du produit.
Ouais.
Il y a aussi aujourd'hui, on en parlait là maintenant avec LinkedIn, c'est l'importance de la personnalisation et vraiment de prôner la notoriété de marque et vraiment fédérer une communauté dans le sens où il ne faut pas faire du contenu comme ça à l'aveuglette, vraiment fédérer une communauté, vraiment créer un contenu qui soit personnalisé, qui va vraiment apporter une valeur ajoutée aux personnes qui vont le consommer. Donc ça aussi, c'est une autre grosse tendance à partager. Je dirais l'émergence des nouvelles plateformes, ça c'est évident. Je veux dire, il y a Thread, il faut être conscient qu'il y a Thread, il y a d'autres plateformes qui sont en train de naître, ça peut être des rivales ou pas des rivales, mais il y a d'autres plateformes qui vont naître petit à petit. Il y a aussi, je pense qu'une tendance assez évidente, c'est le fait que maintenant on a des services clients qui sont là, mais aujourd'hui maintenant les personnes elles ont besoin d'avoir des réponses immédiates quand elles ont une question, donc aujourd'hui elles vont plus... notamment se servir, bah, par exemple, elles vont t'envoyer un message par DM sur Instagram ou t'envoyer un message sur LinkedIn et te demander une connexion et te demander la source d'information que de passer via la source de Customer Success, parce qu'aujourd'hui, je dirais que vraiment les réseaux sociaux, c'est un chat de Customer Success ou un chat client de service client 2.0 avec lequel il va falloir aussi apprendre à travailler directement et vraiment s'en servir aussi, quitte à utiliser des automatisations comme les chats ou des choses comme ça. Mais bon, après, de toute façon, toutes les tendances, Je pourrais te les partager parce que là, on a lancé, il y a littéralement, il est 15h, on a lancé le livre des tendances à midi et demi, on a lancé notre nouveau guide, notre nouveau livre blanc sur comment réussir sur les réseaux sociaux en 2024.
Excellent.
Et on parle de tendances, on parle de stratégie, on parle de plein de choses. Donc là, il y a aussi pas mal de tendances que du coup Barbara a rédigées. Notamment, on parle d'ultra fan, on parle d'attention layering, etc. Mais ça,
d'accord,
je n'en dirai pas plus parce que tout est dans le guide.
Ok, super. Bah, écoute, je le mettrai en lien aussi.
Et dans je te le partagerai après.
Ouais, super. Ok. Ben écoute, pour conclure, est-ce que on peut, tu vois, je reviens à la boucle du début, tu vois, où on parlait de la recherche d'emploi, tout ça. Toi, en fait, comme t'es SMM chez Metricool, vous bossez avec beaucoup de marques et tout ça, et t'as quand même une bonne vision, à mon avis, du marché, des besoins actuels sur le marché en social media. Et c'est quoi les compétences social media les plus recherchées par les marques aujourd'hui, pour 2024, à ton avis?
Je pense qu'aujourd'hui, il faut vraiment être très axé sur l'analyse de données. C'est-à-dire que vraiment, aujourd'hui, ça c'est évident qu'on va vous demander sur le CV, est-ce que vous savez l'utiliser, peut-être la suite Adobe, est-ce que vous savez utiliser Canva. Après, je pense que Canva, c'est l'essentiel, je veux dire Adobe.
Ouais.
Si vous avez fait des études de design, motion graphique, etc., mais c'est aussi, comme je le répète encore une fois, celui qui fait du design, celui qui fait de la DA n'est pas forcément la personne qui fait et qui crée du contenu. Mais ça aussi, comme je dis, les entreprises n'en ont pas forcément non plus encore conscience. Donc, c'est vrai qu'à vous demander des fois de créer du contenu. Donc, avec Canva, je pense que c'est aisément, c'est suffisant. Vous pouvez utiliser après d'autres trucs. Plus vous avez, mieux c'est. Mais je pense qu'il y a vraiment création de contenu et créativité. Mais après, vraiment, je pense pour moi, les compétences essentielles, c'est l'analyse de données. C'est être capable de pouvoir analyser, de pouvoir sortir des informations et justement de dire, bah, OK, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Ça a été quoi le feedback? Ça a été quoi le résultat, en fait? Vraiment être capable de pouvoir justement trouver un argument et de pouvoir trouver une explication à ce qu'on analyse. Parce que aussi, analyser et dire, ah super, j'ai augmenté mon numéro d'interaction. OK, ouais, mais quoi d'autre? Vraiment pouvoir aussi avoir une faculté d'argumentaire derrière aussi, c'est super important. Je dirais aussi les maîtrises des tendances, des dernières fonctionnalités, de qu'est-ce qui se passe, être vraiment rapide. Même moi, je me dirais qu'aujourd'hui, je me considère même pas vieille, hein, je dis pas le contraire, mais me considérer un peu, non mais tu vas comprendre pourquoi je te le dis.
Ouais.
Je me considère vieille peut-être pour TikTok. Parce que TikTok
non,
aujourd'hui.
Non, tu déconnes, t'as 25 ans, franchement, t'es pile dans
oui,
la.
Oui, non, non. Oui, je suis pile, mais je dirais que par exemple, quelqu'un qui a 18-20 ans sera beaucoup plus vivace sur la compréhension du réseau social que par exemple peut-être moi qui en consomme. Moi, je consomme du TikTok, mais c'est pas quelque chose que je consomme non plus dans mon temps libre parce que je préfère consommer d'autres types de contenu.
Oui, je vois ce que tu veux dire. En fait, oui, mais après, bon, tu peux ne pas consommer du TikTok, mais consommer du TikTok en mode veille pour comprendre.
Oui, non, en mode veille, tout. Évidemment. Mais ouais. C'est vrai que c'est pas quelque chose que moi je consomme dans mon temps libre parce que c'est pas forcément mon réseau social favori. J'en préfère d'autres. Comme je préfère notamment, par exemple, moi j'adore YouTube, j'adore Pinterest. Mais je dirais vraiment être au courant un petit peu de ce qui se passe et aussi pour comprendre les roulages des différents réseaux sociaux.
Oui, ça c'est sûr.
Et après aussi, je dirais, voilà, gestion de crise et réactivité. Parce que notre métier, ça demande d'être super réactif et d'être aussi très résilient. Parce qu'on peut vous dire quelque chose, lundi, on peut vous dire quelque chose, mais jeudi, finalement, ça va être complètement différent. Donc, il faut savoir faire preuve de résilience quand il y a des changements de dernière minute, parce que ça peut être frustrant. Mais il faut être capable de pouvoir gérer ça avec beaucoup de sang-froid, parce que ça peut être, sinon, on peut vite, en fait, s'emporter et on peut vite perdre un peu le nord. Et ça, c'est super important, je pense, je dirais. Compétence de rédaction. C'est hyper important de savoir rédiger ou du moins juste avoir des compétences de storytelling. Ça, c'est pas inné, ça s'apprend. C'est-à-dire, c'est pas quelque chose avec lequel on est, c'est avec la pratique. Donc, c'est savoir rédiger et au moins, du moins, s'efforcer à avoir la bonne volonté d'eux et surtout être, entre guillemets, je dirais, assez, assez ouvert d'esprit et surtout très vivace.
Ouais.
Voilà.
Ouais, faut être en forme, quoi. Ouais, non, c'est vrai, avoir de l'inspiration, être vivace, comme tu dis, être réactif, savoir écrire et raconter des histoires, et puis des fois, tu racontes des histoires, ça fait un flop. Enfin, il faut faire du test and learn, je pense aussi, il faut être persévérant, faut pas s'arrêter au premier échec ou quoi, tu vois.
Non, ça c'est clair. Ouais,
hein. Continuer.
On a tous fait des posts qui on s'est dit ah ouais super ça va cadenner, ça a fait 3 likes. On est tous passés par là. Hein.
Exactement. Ok, bon bah, merci beaucoup Oriane, c'était top de discuter avec toi.
Avec plaisir.